Chapitre 15. Épilogue. 12 ans se sont écoulés. Je suis assise, je regarde d'un air indolent toutes ces feuilles couvertes de mon écriture et je me demande si j'ai encore à en remplir beaucoup de semblables. Il ne me reste que peu de choses à dire. Oscar et Lucille d'abord. 2 jours après s'être retrouvés, ils furent mariés dans l'église de Sydenham. Le mariage ne fut guère animé. Il n'y eut que M. Finch qui fut gai. En arrivant à Londres, nous nous séparâmes. Les jeunes mariés s'en retournèrent au sable. Le recteur resta en ville 1 jour ou 2 pour aller voir ses amis. Quant à moi, je retournai auprès de mon père pour l'accompagner de Marseille à Paris. Je restai, si je m'en souviens bien, 15 jours en France et pendant ce temps, je reçus des sables des lettres charmantes. On m'annonçait dans l'une d'elles qu'Oscar avait reçu des nouvelles de son frère. La lettre que lui écrivait Nugent n'était pas longue. Elle était datée de Liverpool et annonçait qu'il allait s'embarquer dans 2 heures pour l'Amérique. Il avait appris qu'une nouvelle expédition aux régions boréales se préparait à New York dans le but de découvrir une mer polaire libre qui devait se trouver entre le Spitzberg et la Nouvelle-Zemble. Il avait aussitôt pensé que cette expédition pourrait offrir de nouveaux horizons aux peintres à la recherche des tableaux les plus grandioses et les plus sublimes de la nature. Il s'était décidé à accompagner les explorateurs et avait trouvé l'argent nécessaire pour le voyage en vendant ce qui lui restait et qui eut quelque valeur, ses bijoux et ses livres. Il ajoutait que s'il se trouvait n'avoir pas assez d'argent, il en demanderait à Oscar et il promit d'écrire en tout cas avant de s'embarquer. Nugent terminait sa lettre en faisant des adieux affectueux à son frère et à celle qu'il appelait sa sœur. Ayant reçu cette lettre dans la suite, je n'ai pu y trouver la plus légère allusion à ce qui s'était passé ou la plus maigre nouvelle de la santé ou de la disposition d'esprit de celui qui l'écrivait. Je m'en revins dans notre petit village isolé et je pris possession de la chambre que Lucille avait préparée elle-même pour moi au sable. Je trouvai les deux mariés aussi heureux qu'il est possible de l'être. Ils pensaient bien parfois avec tristesse à l'absence de Nugent et il m'arrivait aussi d'y penser. C'est peut-être pour cette raison que Lucille me sembla plus grave que lorsqu'elle était demoiselle. Cependant, ma présence et celle de Grosseur, arrivée au sable quelques jours après le mariage, contribuèrent un peu à lui rendre son ancienne gaieté. Aussitôt que sa goutte lui avait permis de se lever, Herr Grosseur était présenté au sable avec sa trousse et désireux de faire un nouvel essai sur les yeux de Lucille. « Si l'opération a fait manquer, disait-il, je ne viendrai plus vous tourmenter. Mais elle n'a pas manqué, et c'est vous qui avez négligé de prendre soin des jolis yeux tout neufs que je vous ai donnés. » C'est ainsi qu'Herr Grosseur essayait de persuader à Lucille de subir une nouvelle opération. Elle refusa constamment de s'y soumettre, et les discussions qu'elle eut avec le bon docteur la divertissaient énormément. Grosseur essaya plus d'une fois, en revenant à la charge, d'ébranler sa résolution. Effort perdu. La maison retentissait du bruit de leurs querelles à ce sujet. Lucille retrouva son ancienne gaieté en réfutant les arguments grotesques du brave Allemand. Quand j'essayai à mon tour d'ébranler 2 ou 3 fois la détermination de Lucille, elle me répéta, mais en d'autres termes que ceux qu'elle employait en parlant au docteur, ce qu'elle m'avait dit à Sydenham. Mon amour seul me fait vivre et il est intimement lié à mon infirmité. Il est juste d'ajouter que M. Seabright et un autre médecin compétent, que l'on consulta tous deux en même temps, soutinrent sans hésitation que Lucille avait raison. M. Seabright avait toujours prévu que le succès de l'opération faite par Herr Grosseur ne serait que temporaire et son collègue se rangea entièrement de son avis après avoir examiné les yeux de Lucille. Qui saurait dire lequel avait raison, Herr Grosseur ou des deux médecins? Lorsque je vous ai présenté Lucille, elle était aveugle, et aveugle vous la retrouverez finalement. Si vous déplorez cette malheureuse infirmité, veuillez vous rappeler en même temps qu'elle était essentielle à son bonheur, que Lucille était heureuse et que les conditions qui font le bonheur des autres n'étaient pas indispensables aux siens. Nous reçûmes sur ces entrefaites une seconde lettre de Nugent, écrite la veille de son départ pour les mers polaires. Une phrase dans cette lettre nous toucha. « Qui sait, disait-il, si je reverrai jamais l'Angleterre ? Mon cher Oscar, si c'est un garçon, appelle ton premier-né de mon nom. » Cette lettre contenait en outre un document qui m'était spécialement adressé. C'était la confession de Nugent. Il s'était contenté d'ajouter à la fin « Vous qui savez tout, pardonnez-moi si vous le pouvez. J'ai bien souffert aussi, moi. Ne l'oubliez pas. » Après avoir fait usage de cette confession, je l'ai brûlée à l'exception de ces quelques lignes. À d'assez longs intervalles, nous entendîmes parler du vaisseau où se trouvaient les explorateurs qui avaient donné de leurs nouvelles des baleiniers. Puis, un assez long espace de temps s'écoula, au bout duquel il courut un bruit terrible qui fut confirmé dans la suite de la perte de l'expédition. Un an se passa sans que l'on entendît parler des hommes qui en avaient fait partie. On savait cependant qu'ils avaient à bord des provisions de toute espèce et tout le monde espérait qu'elles pourraient durer jusqu'à ce qu'il leur arrivât des secours. On envoya par terre une nouvelle expédition à la recherche de la première, mais sans aucun succès. On offrit des récompenses aux baleiniers qui la retrouveraient et personne ne vint réclamer l'argent. Nous portions le deuil de Nugent et la tristesse s'était emparée de nous tous. 2 ans se passèrent sans que l'on pût retrouver l'expédition. Mais un baleinier, poussé hors de sa route par la tempête, rencontra la coque d'un vaisseau qui avait perdu tous ses agrès dans les glaces. La conclusion du rapport du capitaine de ce vaisseau retracera fidèlement l'histoire de ce désastre. La voici. Le vaisseau naufragé voguait à la dérive dans un chenal laissé entre la glace. Bientôt, il rencontra un glaçon. Je mis un canot à la mer et mes hommes ramèrent vers la coque du vaisseau. Il n'y avait pas un être vivant sur le pont couvert de neige. Noué l'âme, mais personne ne répondit. J'appliquai l'œil à la vitre d'un des sabords d'arrière, où j'aperçus indistinctement un homme assis à une table. Je frappai contre le verre, mais il ne répondit pas. Je montai avec mes hommes sur le pont. Nous ouvrîmes les coutilles et descendîmes dans la cabine. L'homme que j'avais aperçu à travers le sabord se présenta à nos yeux. Il était à l'extrémité opposée de la cabine. J'entrai le premier et lui adressai la parole. Pas de réponse. Regardant de plus près et touchant une de ses mains, je m'aperçus à mon étonnement et à mon horreur que je tenais la main d'un cadavre. Sur la table à laquelle il était assis se trouvait le journal du bord dans lequel il avait fait la dernière observation. La voici. Il y a 17 jours que nous sommes pris dans les glaces. Notre feu s'est éteint hier. Le capitaine a essayé en vain de le rallumer. Le médecin du bord et 2 matelots sont morts de froid ce matin. Il faudra que nous passions tous par là, chacun à notre tour. Si jamais on nous découvre, je prie celui qui me retrouvera d'envoyer cette... » À cet endroit, la main de celui qui écrivait était retombée avec la plume. La main gauche du cadavre était restée posée sur la table. Entre les doigts glacés, nous retrouvâmes une longue tresse de cheveux de femme liée à chaque bout d'un ruban bleu. Les yeux grands ouverts du cadavre étaient fixés sur ses cheveux. Nous trouvâmes le nom de cet homme dans son portefeuille. Il s'appelait Nugent Dubourg et je donne ce nom dans mon rapport pour ses parents ou ses amis. En examinant le vaisseau et en comparant les dates inscrites dans le journal du bord, nous trouvâmes que la mort des officiers et des matelots devait remonter à plus de 2 ans. La position dans laquelle nous découvrîmes les cadavres gelés des hommes et leurs noms respectifs, du moins ceux que nous avons pu trouver, sont ici consignés, etc. La tresse de cheveux de femme étant la possession de Lucille qui désire la garder quand on l'enterrera. Hélas, pauvre Nugent, ne sommes-nous pas tous voués au péché ? Imitez-moi, lecteur, oubliez ce qu'il avait de mauvais pour vous rappeler ce qu'il avait de bon. J'hésite de nouveau en écrivant ces pages et je me sens peu disposé, s'il faut dire vrai, à abandonner ma narration. Mais au fait, que pourrais-je encore vous dire ? J'entends résonner le marteau d'Oscar qui siffle gaiement en travaillant à sa ciselure. Dans une autre chambre, Lucille donne à sa petite fille une leçon de piano. J'ai devant moi sur la table une lettre de Madame Finch datée d'une lointaine colonie où M. Finch, qui a glorieusement monté en grade, préside en qualité d'évêque. Il harangue les indigènes à cœur joie, et ce qui est plus fort, c'est que ce singulier troupeau goûte fort ses sermons. Jig se trouve dans son élément parmi les sudis aborigènes, et il est fort à craindre que la jeune bohémienne de la famille ne finisse par épouser un chef sauvage. Madame Finch, le croiriez-vous, s'attend à mettre au monde un nouvel enfant. Le fils aîné de Lucille, auquel on a donné le nom de Nugent, entre à l'instant et vient contre mon pupitre. Il fixe ses beaux yeux sur les miens. Sa grosse figure rose exprime le mécontentement qu'il éprouve à me voir occupé à écrire. « Ma tante, dit-il, tu as assez écrit comme cela. Viens jouer avec moi. » L'enfant a raison. Il est temps que je mette de côté mon manuscrit et que je vous fasse mes adieux. Je sens, malgré ma gaieté naturelle, une certaine tristesse en vous quittant. Et vous ? Fin du deuxième volume.